Nos rivières ont besoin d'être protégées. Mais comment y arriver si on les oublie ? Les humains vivent parfois au bord des cours d'eau, mais sans y penser. Ils puisent leurs eaux sans les regarder. Pour retisser les liens entre les rivières et nous, l'association Eau et Rivières de Bretagne et la région Bretagne ont lancé en 2021 l'Atlas socioculturel du Belon. D'autres ont suivi, le Lapic, le Léguerre, les Marais de Vilaine, la Rade de l'Orient avec le Scorff, le Blavet et le Terre, et enfin la Rance. Ce sont ces démarches que vous propose de découvrir ce podcast.
Bonjour à toutes et à tous. Comment donner à une rivière toute sa place dans l'identité d'un territoire ? Réponse, réaliser un atlas socioculturel. Nous en parlerons dans quelques minutes avec Aurélie Benseval, chargée de mission Eau et Culture à Eau et Rivières de Bretagne. Mais tout d'abord, direction le Belon, en Finistère Sud, qui a été la première rivière de Bretagne à bénéficier d'un tel atlas socioculturel. Rencontre avec Nolwenn Le Crâne, élue à la culture et à la langue bretonne à Quimperlé Communauté, collectivité qui a porté le projet.
Ici, on est au port de Rosbraz, qui est un lieu magnifique, surtout par le temps avec lequel nous l'abordons, puisqu'il fait froid, mais extrêmement beau. Et ce port qui est attaché à la commune de Rieck-sur-Belon est bien connu des cartes postales, des touristes, et, parce que ce sont des paysages qui sont emblématiques du sud de la Bretagne.
Là, on est dans la partie aval, en fait, de la rivière.
Oui, puisqu'effectivement, on a une image du Belon, quand je parlais de carte postale, qui est vraiment celle-là, c'est que de l'extérieur, y compris même parfois pour les habitants du territoire ou les Bretons de pas très loin, on a souvent une image, effectivement, de ces petits ports plus ou moins enclavés, avec un certain nombre de jolis bateaux blancs qui sont amarrés, qui font de jolis petits bruits de tintement, et qui représentent la Bretagne du Sud et son caractère typiques qui sont très photographiés et qui sont souvent des destinations aussi de vacances. Mais le Belon, ça n'est pas que ça. C'est-à-dire que c'est une rivière qui prend sa source bien plus haut, du côté de Banalec, et qui irrigue 6 communes du territoire de la communauté d'agglomération.
Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu la démarche d'atlas socioculturel qui a été menée justement et que Quimperlé Communauté a géré en fait finalement?
Quand cette initiative de la région Bretagne en partenariat avec Eau et Rivières nous a été présentée, c'était en 2021 il me semble, c'était pour nous une opportunité formidable, pour plusieurs raisons. Une opportunité formidable parce que nous devions le terrain de jeu d'une expérimentation qui était totalement différente de ce qu'on faisait habituellement autour de l'eau, de la préservation de la ressource en eau, des rivières en général et de leur attractivité. Souvent on parle de la rivière sur le plan du débit, de la salinité, de ce qu'on peut y faire en termes d'activité économique ou de la biodiversité, bien évidemment, qui est aujourd'hui un sujet majeur. Et de fait, comme cela amène des éléments qui sont souvent très techniques, des calculs, des éléments d'information qui relèvent d'un jargon de spécialiste. Beaucoup de gens ne rentrent pas dans le sujet ou ne sont pas toujours intéressés par l'idée de préserver la rivière parce qu'ils pensent que c'est une affaire de spécialistes et qu'eux n'ont pas à y voir ou ne sont pas suffisamment compétents ou capables pour agir. Et de fait, le principe des atlas, et l'atlas socioculturel du Belon a été en premier, il y a le mot socioculturel. Parce que l'idée est qu'on aille sur la notion de sensible, de souvenir, d'affect. Donc de ramener la question de la rivière à ce qu'elle représente dans la vie, dans l'imaginaire, dans l'affection des habitants du territoire. La préservation viendrait du fait qu'on est attaché à la rivière et que ça n'a absolument rien à voir avec les calculs et des éléments de ce genre, mais qu'on pouvait toucher un tout autre public par cet aspect-là, en rentrant par ce côté-là du sujet.
Justement, comment vous avez procédé? Quelles ont été un peu les grandes actions que vous avez menées justement dans cet angle affectif socioculturel?
Comme justement cet angle était tout nouveau et que on aime bien les expérimentations dans ce territoire, nous avons effectivement sauté sur l'occasion. Ça a été la possibilité de travailler avec une structure d'urbanisme culturel, Cuesta, qui nous a accompagnés pendant toute la démarche. Et l'idée a été de proposer aux habitants plusieurs formats. D'une part, des causeries, des discussions faciles, conviviales, sans organisation trop formatée, pour permettre la parole et l'échange libre sur ce que le Bellon pouvait représenter. Qu'est-ce que c'est pour moi dans ma vie, dans mon quotidien, dans mon imaginaire, qu'est-ce que ça a comme importance pour moi en tant que personne? Et donc on a invité tous les habitants le long du parcours, puisque cette rivière allant passe de Banalec, Mélac, Le Trévou, Beille, Rieck sur Bellon et Moëlan-sur-Mer. Nous avons donc, au fil de ce parcours du Bellon, interrogé les habitants en petits groupes, en réunissant des communes, plusieurs communes à la fois.
J'ai découvert le Bellon au fond parce que la rivière était à un kilomètre de la maison à peu près, et ça a été un lieu de retrouvailles avec les amis, les camarades. On allait, ce qu'on appelait à l'époque le poulu du pauvre, on se retrouvait pour les baignades. On n'allait pas à la mer, on allait par le propre moyen à la rivière du côté de Kerwer.
Au pont du Guilly, on sautait dans l'eau à marée haute depuis le pont. Et puis à Pont de Caillot, où on allait effectivement, donc on se servait des berges de la rivière comme toboggan pour se mettre dans l'eau.
J'habitais Sker quand j'étais petite, et donc on allait souvent au bord de la rivière, mais moi c'est vraiment, je connais plus la partie Rieck, la plage de Questeland, enfin voilà, vraiment la partie estuaire aussi. C'est là-bas que j'ai appris à faire du canoë.
Quand on allait acheter du pain avec ma mère, on en profitait pour faire une belle balade dans l'Anse de Saint-Léger, qui a un paysage absolument magnifique. Pour moi, c'est vraiment les balades, donc c'est un attachement de souvenirs d'enfance. Et puis, par rapport à la beauté des paysages et la préservation de l'environnement dans cet espace-là.
Et à la suite, nous avons enchaîné par une autre opération de terrain également, qui était ce qu'on a appelé des cartoparties. Cartoparties, c'est un principe où on marche, on va en vélo, on a fait du paddle aussi. On peut aussi aller en bateau si on le souhaite. En tout cas, on parcourt la côte ou la rivière elle-même et on la regarde de nouveau. On la regarde en groupe, on se promène, on s'arrête. Il n'y a pas de temps particulier, ça peut durer très longtemps comme être relativement court, mais on observe la rivière, on se raconte les souvenirs qu'on pouvait avoir sur le sujet, on photographie des endroits qui vous ont marqué. On peut aussi prendre des sons qui sont caractéristiques de la rivière ou de ce que nous on pense comme étant quelque chose de marquant, qui nous parle, voilà.
Qui donne une identité.
Voilà, je parlais du tintement caractéristique dans les ports, c'est quelque chose qui moi me parle, et à d'autres ce sera le coucher de soleil, telle ou telle balade, tel ou tel endroit, tel ou tel canot.
Quand je suis autour du Bellon et tout ça, je m'extrais du temps. Donc ici, je retrouve du temps, de la durée, du recul. J'oserais même dire méditation, mais je ne suis pas mystique, mais on se comprend ce que ça veut dire.
L'idée était d'une part de montrer que la rivière avait de la valeur et qu'elle avait une vie en propre, qui n'était pas forcément celle qu'on imaginait, et de permettre aussi aux habitants d'exprimer une parole qui avait du sens et qui pouvait être retranscrite, de redire son attachement ou ses préoccupations, parce que je me rappelle d'une causerie à Moëlan-sur-Mer où on avait bien vu la détresse de certains habitants vis-à-vis de la dégradation du cours d'eau ou de l'emprise d'un certain nombre de structures sur la rivière, qui leur donnait le sentiment d'être un peu dépossédés parfois d'un espace qu'ils avaient toujours connu.
Et quand on prend le Guilly, le bois du Guilly, la rivière est complètement envasée, quoi. Elle est couverte de saules, plus personne ne peut accéder, à part quelques canards qui sont là, ils sont très contents. Donc voilà, c'est une rivière en fait qui a beaucoup perdu, et en accès, et en même temps, donc ça paraît justement, ça, pour pouvoir avoir une idée propre du Bellon et un intérêt du Bellon, il faudrait pouvoir approcher déjà.
Certaines personnes, propriétaires actuellement, interdisent l'accès. Une partie des berges du Bellon, Saint-Ouarnaud, Moulin-la-Squat, et après l'Esquat, on n'a plus accès. C'est devenu des ronces inaccessibles où on trouve même des barbelés, ce qui ne devrait pas exister.
il y a derrière une production de fables, une production photographique et un peu de manière, on va dire, connexe, qui nous a parvenu, mais qui me semble être une vraie réussite de cet atlas. Un film a été produit au cœur du Bellon par deux jeunes réalisateurs qui ont fait leur propre parcours. Et pour moi, ces éléments-là sont de vraies réussites, puisque à partir de ce que les habitants ont pu exprimer de leur attachement au lieu, à leur manière et avec leurs souvenirs, leur regard, une production littéraire, artistique a pu être faite.
Comment les gens ont un peu réagi justement au fait qu'il y ait cet atlas, qu'on leur demande un petit peu de s'impliquer, des causeries, comment ont-ils réagi un petit peu à tout ça ?
Quand ça a été mis en place, du point de vue de l'organisateur que nous étions, nous ne savions pas si ça répondrait. Parfois, les collectivités produisent des objets de politique publique qui sont parfois un peu trop intellectuels ou un peu trop travaillés, qui font que on perd les habitants au passage. Et la crainte qu'on aurait pu avoir au départ était celle-là. Mais ça ne s'est pas passé. D'une part, les associations locales qui s'intéressent au paysage, à la préservation de la biodiversité, de la nature, des rivières, ont été très présentes. Bon, Eau et Rivières était aussi organisateur et opérateur de l'action avec Service Biodiversité de la région Bretagne, donc ça a aidé aussi à mobiliser ces acteurs-là. Mais nous avons vu aussi des gens qui n'étaient pas forcément membres de structures qui sont venus. Je me rappelle de Amélac, d'amoureux de la randonnée, qui était venu faire un petit tour à la causerie, ou de propriétaires proches du Bellon qui se posaient des questions sur les lieux.
Il a plusieurs noms. Ruisseau du Guilly, Ruisseau de Saint-Jean, il a plein de noms sur l'amont. Mais il n'est jamais nommé sur les ponts. Donc le Bellon, il coule sur 26 km, il est inconnu. À part peut-être dans la partie RIA. Là, sur 7 km, il est plus visible, et puis il y a des activités ici qu'on va évoquer. Donc voilà, 26 km. Le bassin, 97 km², mais une centaine, ça vous dit pas grand-chose. Mais bon, les sources, on y était ce matin, Loch Nainu, à Banalek. Les sources sont à Banalek. Et le Bellon arrose 6 communes en tout. Banalek, les sources. Le Trévou, Mellac, Beille, Riec-sur-Belon et Mouélan.
Et puis, on a aussi beaucoup accroché les bretonnants, dans le sens où Thiers Avrault, Brocquimperlé, c'est à tout de suite vu le lien qu'il pouvait y avoir à faire avec la langue bretonne. Et nous avons aussi travaillé d'une certaine manière sous format bilingue quasiment pendant la totalité de l'opération.
Alors, résultat de cet atlas, c'est qu'il y a eu tout un travail aussi de cartographie.
Oui.
Et on retrouve justement d'ailleurs ces causeries au fil des lieux de la rivière.
L'idée de cette carte interactive qui a été produite, puisque c'était l'objectif, l'ensemble de ce qui a été recueilli dans les causeries, dans les cartoparties en particulier, a servi à alimenter un espace qui n'est pas juste une carte sur le web, mais quelque chose de sensible où on peut y retrouver justement les impressions, une part justement de l'imaginaire des participants. L'idée était, derrière cette opération, de faire que des habitants, de manière individuelle ou groupée, puissent continuer cette opération une fois que la carte était produite. Et comme un certain nombre d'exemples étaient fournis pour réussir à comprendre comment l'utiliser, que d'autres puissent l'enrichir par leurs photos, par leurs sons, par leurs souvenirs.
Voilà, à l'instant, ce reportage sur le Bellon en Finistère Sud avec Nolwenn Lecrane de Quimperlé Communauté sur le retour d'expérience de l'atlas socioculturel mené sur le territoire à partir de 2021. Pour aller plus loin sur ce sujet, sur la raison d'être de ce type d'atlas, eh bien, nous recevons aujourd'hui Aurélie Benseval, chargée de mission Eau et Culture à l'association Eau et Rivières de Bretagne. Bonjour Aurélie.
Bonjour.
Alors, tout d'abord, comment réagissez-vous au reportage que l'on vient d'entendre ?
Eh bien déjà pour commencer, ce que je trouve vraiment intéressant dans ce reportage, c'est que c'est le témoignage d'une élue. Parce qu'on sait que ces projets, ils ont absolument besoin d'être soutenus par les élus, par les politiques du territoire. Et donc, voilà, ce dont elle témoigne, c'est vraiment de cet intérêt pour des élus de s'emparer de ces démarches. Donc ça, c'est vraiment déjà le premier point que je trouve vraiment intéressant. Et puis, l'autre chose qui ressort aussi dans ce qu'elle dit, c'est cette dimension un peu... pas émancipatrice, mais plutôt d'activer le pouvoir d'agir des habitants. C'est-à-dire, voilà, ce dont elle témoigne, du fait qu'à travers ces démarches, les gens se sentent légitimes finalement pour s'emparer de ces questions, qui effectivement sont traitées de manière très technique d'ordinaire. Et là, ça leur donne une porte d'entrée. C'est un premier pas pour se réapproprier les questions de l'eau sur leur territoire. Et donc, c'est un peu notre pari, donc je retiens ça.
On va revenir sur cette idée d'implication des habitants dans ces projets. Tout d'abord, d'où est née cette idée de réaliser de tels atlas socioculturels ? Alors, c'est peut-être une définition ou une expression que nos auditrices et auditeurs ne connaissent pas encore, mais d'où est née cette idée de réaliser de tels atlas sur les rivières de Bretagne ? Quel était peut-être le constat de départ avant d'initier cette démarche, Aurélie ?
Alors, cette démarche, elle est née d'un constat effectivement qu'on a fait à Haut-Rivière de Bretagne à l'occasion de nos 50 ans, donc les 50 ans de l'association, où on a fait un grand colloque et on avait invité des représentants du peuple Wanganui, donc de Nouvelle-Zélande, qui ont fait toute une démarche en fait pour reconnaître, pour donner une personnalité juridique à leur rivière. Et finalement, en les écoutant raconter leur démarche et leur action, ce qui nous a vraiment sauté aux yeux, c'est le lien, l'attachement, la manière dont réellement ils sont reliés à leur rivière, comment elle fait vraiment partie de leur identité et de leur culture et de leurs usages. En tous les cas, ils ont vraiment un lien très fort. Et donc, ça nous a renvoyé finalement à notre propre histoire à Haut-Rivière de Bretagne, puisque c'est une association qui a été créée par des pêcheurs qui donc sont des gens qui sont sur la rivière de manière très fréquente et qui sont des amoureux de ce territoire. Et c'est à partir finalement de cette présence sur ces milieux de vie qu'ils ont fait le constat de problématiques et notamment de dégradation et qu'ils ont créé finalement cette association pour protéger les rivières. Et finalement, au fil du temps, il y a eu une technicisation de ces sujets et on a un peu perdu de vue cette approche finalement, ce lien justement qui était originel à l'association. Et là, ça nous est vraiment revenu un peu en boomerang et on s'est dit il faut absolument qu'on le retravaille. Alors on le travaille quand même en fait, déjà au sein de l'association, mais on peut-être le travailler de manière différente et plus, et puis surtout que d'autres le travaillent justement, cette question du lien à leur territoire, pour que cet attachement aux rivières et cet intérêt pour les enjeux autour de ces rivières soient emparés largement par les habitants.
Alors pour reconnecter les habitants, habitantes à leur rivière, est-ce que par rapport à ces méthodes que vous avez explorées avec différents partenaires, est-ce qu'il y a une formule magique ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort, qui doit se retrouver dans ce type de démarche de façon systématique ?
Alors une formule magique, non. Il n'y en a pas, déjà parce que chaque territoire est très différent. Chaque territoire a une histoire différente, les habitants ont un lien différent à leur rivière, la géographie des territoires et l'histoire des territoires est différente. Après, par contre, il y a quelque chose qui est assez récurrent, c'est la question de la marche, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va explorer ou réexplorer son territoire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans les atlas, évidemment, mais dans d'autres démarches qu'on a pu rencontrer depuis en France et aussi à l'étranger. C'est vraiment cette idée d'arpenter son territoire. Et arpenter, j'aime bien ce terme parce que on dit arpenter un texte aussi. Et arpenter un texte, c'est se partager un petit peu la lecture d'un texte et de partager sa compréhension à plusieurs. Et c'est un peu ça aussi, un arpentage de territoire, finalement. C'est inviter différentes personnes à faire ces marches exploratoires et puis à partager les différents savoirs que ces personnes peuvent avoir de ce territoire.
Alors la question qu'on se pose dans notre discussion aujourd'hui, Aurélie, c'est de savoir comment on peut donner à une rivière toute sa place dans l'identité d'un territoire. Alors, pour qu'on comprenne bien, quel pourrait être le rapport finalement entre l'attachement des gens à une rivière et l'identité du territoire ?
En fait, pour moi, c'est assez évident parce que notre identité, elle se construit tout au long de notre vie. Et un des points de départ, bon, on pourrait dire qu'il y a la famille, mais quand même un autre point de départ, c'est là où est-ce qu'on est. Et on ne se construit pas notre identité de la même manière si on vit en ville, à la campagne, à la montagne, au bord de la mer. Donc notre milieu de vie, il a évidemment une incidence sur qui on est et sur notre rapport au monde et à nous-mêmes. Il a une incidence sur nos activités, sur nos manières de nous déplacer, de manger, de communiquer. Et par exemple, si je prends, en Bretagne par exemple, il y a des mots, par exemple glaze. Alors évidemment c'est en breton, tout le monde ne parle pas breton.
La couleur.
Mais c'est, voilà, c'est une couleur, et c'est une couleur qui est typique au paysage de la Bretagne. Je prends un autre exemple peut-être un peu plus parlant, mais les Inuits par exemple, ils ont plein de manières de dire blanc. Que nous on en a une, ou neige, nous on en a une, parce qu'en fait, eux leur paysage il est blanc et il y a plein de matière neige. Et c'est comme ça qu'ils vont exprimer leur territoire et exprimer du coup aussi leur mode de vie. Ça a une incidence, quoi. Donc ici, on vit sur un territoire d'eau où il y a énormément de rivières. L'eau, elle est dans le ciel en Bretagne, elle est autour de nous avec la mer. Et puis voilà, on a énormément de bassins versants, énormément de rivières avec des zones humides. Et donc ça constitue en fait notre rapport à nous-mêmes, à notre territoire. Donc pour moi, un paysage, un milieu de vie, c'est pas un paysage, c'est un milieu de vie. C'est vraiment un élément fondamental, en fait, pour...
En d'autres termes, si on perd cette connexion au milieu de vie, à la rivière, on perd son identité, quelque part. Ou il manque quelque chose dans son identité.
On est un peu hors sol, en fait. Ouais. Et là, on sent, d'ailleurs, qu'il y a quelque chose qui est difficile pour les gens, je trouve, d'être un peu... hors sol, on bouge beaucoup déjà, nous on est quand même mobile, on ne naît pas et on ne meurt pas forcément au même endroit, on a beaucoup de mouvements dans nos vies, et se connecter quand même aux territoires sur lesquels on habite, c'est un ancrage, ouais, c'est important je pense.
Alors une fois qu'on a réussi à faire ça, c'est-à-dire cette connexion, retrouver aussi l'identité du territoire via cette connexion, c'est quoi les conséquences, c'est quoi la suite, c'est que une fois qu'on est concerné, on a plus envie de protéger sa rivière. C'est un peu le but recherché.
C'est le pari en tous les cas.
Ouais.
C'est-à-dire, c'est de dire que, comme je l'ai dit tout au début, c'est mon histoire de pêcheur en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment cet amour et ce lien au territoire qui fait que, on a envie d'en prendre soin, on a envie de le préserver puisque c'est vraiment important. Ça fait partie de notre bien-être, ce qui fait qu'on est heureux et on est bien de vivre ici. Donc, effectivement, travailler cette question des attachements, c'est un pari. Je dirais qu'avec le recul, finalement, c'est presque un peu dans l'autre sens que ça se passe. C'est-à-dire que finalement, c'est à travers beaucoup de préoccupations qu'on a qui sont hors sol, qu'on trouve des solutions en s'ancrant sur un territoire. Et ça, c'est assez joli.
Ouais,
c'est-à-dire qu'en fait, quelque part, s'intéresser à son territoire de proximité, c'est déjà s'ancrer, c'est questionner sa condition de terrestre. Voilà, on a parlé de la condition humaine pendant longtemps, mais aujourd'hui, je pense que on prend conscience en fait des limites planétaires, que notre Terre est un monde fini et qu'il faut en prendre soin. Et c'est pas toujours facile de savoir par quelle boule prendre. Et en fait, finalement, ces rivières, c'est une manière de s'ancrer dans un territoire qui est appréhendable, je sais pas si ça se dit, en tous les cas préhensible, quoi. C'est-à-dire que c'est local, c'est un bout qui est possible. On peut s'emparer de ces questions-là à travers un enjeu de proximité. Et c'est comme ça, en fait, qu'on atterrit, comme dirait Bruno Latour.
Sur cette première expérience d'atlas socioculturel sur les rivières de Bretagne, sur le Bellon, du côté du Finistère Sud, est-ce que, suite à... Il y a bien une clôture à un moment du projet, même s'il continue à être alimenté aujourd'hui, mais est-ce que, est-ce qu'on peut parler de résultats ? Est-ce que vous avez décelé peut-être des choses qui ont avancé, qui ont bougé suite à cet atlas ?
Et bien, en fait, moi, j'ai pas du tout envie de parler de résultats et j'ai pas du tout envie de parler de clôture. Voilà. Parce que, comme on l'a dit, c'est des enjeux de se relier à son territoire, de le comprendre. C'est quand même des enjeux vastes, complexes. Et on voit bien qu'on s'est déterritorialisé. On a du mal à se relier, justement. Et donc, ça prend du temps. Et c'est sûr que l'Atlas du Belon, en plus, c'était le premier. Donc, il a duré 6 mois. Et ce n'est pas en 6 mois qu'on va reconnecter toute une population à un territoire ou connecter toute une population à un territoire. Donc, c'est vraiment un processus, j'insiste, qui est au long cours et qui demande... Et finalement, cette expérimentation, c'est une première étape. Et il demande à être nourri et à être activé pour que les résultats qu'on en attend arrivent.
On l'a compris, c'est toujours vivant cet atlas sur le Bellon et sur d'autres rivières de Bretagne. Plusieurs atlas sont nés en Bretagne depuis le Bellon. On va en parler bien sûr tout au long de cette série Rives et Récits. Mais Aurélie Bensoval, est-ce qu'il a été facile de convaincre finalement d'autres communautés, collectivités autour des rivières de Bretagne, finalement d'appliquer un petit peu le même schéma, le même concept de ces atlas socioculturels? Comment ça s'est passé suite à la première expérience au Bellon?
Et oui, ça a été assez facile de convaincre parce qu'en fait, on a, avec la région Bretagne, enfin la région Bretagne plutôt, a donc, on a co-élaboré un appel à projet, enfin un cahier des charges pour un appel à projet, et il y a eu beaucoup, beaucoup de réponses. Donc après, on a dû sélectionner évidemment un certain nombre de territoires pour mettre en œuvre de nouveaux atlas. Mais on voit bien que ça a suscité de l'intérêt puisqu'on a plutôt dû sélectionner que chercher des nouveaux territoires. Okay. Et puis, suite à ce premier appel à projet où 4 autres atlas ont démarré, il y a eu un écho aussi de ces atlas. Et là, on voit de plus en plus de territoires qui s'en emparent. Et ça ne vient pas forcément que des collectivités, ça vient aussi des citoyens. Il y a aussi des collectifs citoyens qui ont envie de s'emparer de ces questions de l'eau et qui trouvent justement dans ces approches socioculturelles, ce que disait justement l'élu dans le reportage, une voix en fait pour se réemparer de ces questions et se sentir légitime pour les aborder. Donc ça a plutôt un grand succès. Et puis là, il y a par exemple, je compte cette année encore 3 atlas qui ont démarré de manière plus spontanée.
Il y a le Lapic qui est concerné dans le Finistère, le Léguer dans les Côtes d'Armor, également les Marais de Vilaine, et puis la Rade de l'Orient et la Rance. C'est bien ça?
C'est ça. Donc, dans le cadre de l'appel à projet, il y avait les 4 premiers. La Rance est un nouvel atlas qui est accompagné aussi par la région, mais dans le cadre d'un autre appel à projet. Et puis, il y en a d'autres. Il y en a un sur le Jet, par exemple, vers Ergué-Gabéric. Et puis, il y a des démarches qui ne sont pas forcément exactement des atlas, mais qui sont proches et qui finalement se retrouvent dans les méthodologies. Et puis, on a même essaimé un peu en dehors de la Bretagne, puisque là, actuellement, il y en a un sur le Mausson. Du côté de Montpellier.
Du côté de Montpellier, ok. Aurélie Bensoval, merci beaucoup.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes chargée de mission Eau et Culture à l'association Eau et Rivière de Bretagne. Et pour aller plus loin encore sur la compréhension de ce qui a été réalisé sur le Bellon, je vous invite à vous rendre sur le site dédié de cet atlas socioculturel. L'adresse, c'est bellon.atlas-rivière.bzh. Vous y retrouverez une montagne de ressources documentaires, sonores, cartographiques, beaucoup de contributions des habitantes et des habitants du Bellon. Merci également à Nolwenn Lecrane et Nolwenn Dupont de Quimperlé Communauté de nous avoir guidés le long du Bellon à travers cette démarche pour le reportage sur le terrain. Vous retrouverez cet épisode en podcast sur le site dédié de la Corlab, corlab.org. À très vite pour la suite de Rives et Récits, cette série qui vous propose de voyager dans les profondeurs sensibles et humaines des rivières de Bretagne. Et d'ici là, prenez soin de vous et donc prenez soin de vos cours d'eau.
C'était Rives et Récits, une série de podcasts proposés par les radios de la Corlab, la coordination des radios locales et associatives de Bretagne, en partenariat avec Eaux et Rivières de Bretagne, l'Office français de la biodiversité et la région Bretagne. Thank you.